Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Canu et sur l'émission Grain de sable. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de la prison et nous avons invité pour ceci tout d'abord Lionel Perrin de l'Observatoire international des prisons. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Et Alain Congina de l'association Retraite.
Renaître.
PJ2R, donc pour une justice résiliente et réconciliante. Alors je vais vous laisser vous présenter chacun et rapidement vos associations. On commence par toi Lionel.
Allez, l'Observatoire international, fondé à Lyon 90, qui a grosso modo pour mission de chercher à savoir ce qui se passe en prison, de le faire savoir dans le but d'arriver, même si c'est pas gagné et que le bilan est pas très positif en la matière, à réduire l'utilisation de la prison, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui rentrent en prison et moins de gens qui y restent.
Ah oui, c'est court comme présentation, effectivement. Je m'attendais à un truc un peu plus long, du coup un peu sur vos projets, vos actions, voilà, qu'est-ce que vous faites à l'OIP, quoi.
Bah, le gros du travail de l'OIP, c'est, comme je disais, de chercher à savoir ce qui se passe en prison, donc on le fait un peu partout en France. Le reste, l'OIP n'existe plus vraiment à l'international. Donc c'est un travail de principalement d'enquête qui passe à travers les contacts qu'on a en prison, que ce soit en premier lieu avec les prisonniers, et puis avec toutes les personnes qui vivent, qui travaillent, qui interviennent en prison, avec lesquelles on s'efforce d'être en contact, un certain nombre d'entre elles en tout cas, pour obtenir des informations sur le quotidien en prison, et aussi et surtout sur les atteintes aux droits fondamentaux des prisonniers, pour pouvoir rendre publiques ces informations quand on arrive à les vérifier, à les recouper. C'est le gros du travail de l'OIP, donc un travail de dénonciation des abus de la prison, en gros, pour faire court, quand même.
Pour faire court. Ok, bon, ça me va mieux déjà. Alors, Alain.
Oui, bonjour.
Bonjour, alors, vous pouvez vous présenter et puis présenter votre association.
Oui, je m'appelle Alain Congina, donc, et je suis le président de l'association, non pas de retraités, mais de renaissance, puisqu'on s'appelle Renaître PJ2R, c'est-à-dire pour une justice résiliente et réconciliante. Je crois que la première chose à dire, c'est que cette association, elle est un petit peu particulière, dans le sens où statutairement ne peuvent être élus au conseil d'administration de cette association que les gens qui ont connu la détention. C'est une clause qu'on a mis pour protéger la parole des détenus. Et donc, comme j'en suis le président, on devine facilement que je suis moi-même un ancien prisonnier. L'objectif de cette association est extrêmement clair et on peut le faire très court en à peine trois mots, l'abolition des prisons. Là-dessus, il est absolument important de reprendre à notre compte le combat de Michel Foucault qui replaçait la prison de son point de vue politique et philosophique et non pas simplement sur les histoires personnelles des gens, comme l'autre président d'avant là voulait trouver le gène de la délinquance, comme ça arrangeait bien tout le monde. Mais il s'agit bien de dénoncer qu'effectivement la prison est avant tout un outil pour l'État qui protège le pouvoir, les possédants et leurs privilèges. Et que sur ce phénomène sociétal, là-dessus se greffent effectivement des histoires individuelles. Mais avant tout, la prison est une question du politique et non pas de la politique politicienne qui nous casse les pieds à longueur de temps.
Je crois qu'on y reviendra au fur et à mesure de l'émission. Un autre objectif pour votre association, c'est dans le titre, pour une justice résiliente et réconciliante. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Réconciliante, ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver une nouvelle régulation sociale qui soit capable et suffisamment humaine pour se passer de l'enfermement. Et donc pour qu'il y ait réconciliation, c'est-à-dire qu'il y ait inclusion et non pas exclusion, il faut aussi faire fonctionner la résilience. Puisque dans un certain nombre d'affaires, il y a effectivement des victimes, et que ces victimes, on n'aura certainement pas le temps de rentrer dans le détail là-dedans, mais en tout cas, ne sont pas forcément toujours les caricatures qu'on veut nous présenter à la télé, voulant de la vengeance, des années de prison pour faire leur deuil, etc., ce qui psychologiquement est totalement faux d'ailleurs, mais des gens qui, effectivement, veulent comprendre pourquoi ça leur est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la personne en face est un monstre ou pas, pas. Est-ce que leur vie s'arrête après cette agression ou ce crime? Et est-ce que l'auteur peut être effectivement confronté, non pas au sens opposé qu'on leur fait jouer par rapport au rôle qu'on leur fait jouer dans les tribunaux, mais confronté au bon sens du terme pour effectivement prendre conscience et que chacun des deux puisse reconstruire et repartir dans sa vie à partir de ce qui leur est arrivé, sans le nier, sans regret, sans remords et sans traumatisme, ou en tout cas le plus faible possible.
C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'entend pas souvent ce genre de discours, et c'est bien que vous y ayez fait le point en tout cas là-dessus, et on verra si on aura le temps d'y revenir au cours de l'émission.
D'accord.
Alors je crois que vous, à un moment donné, vous avez participé aux actions de l'OIP, et il y a eu dans votre parcours des divergences par rapport à l'OIP, et c'est pour ça que vous avez décidé avec d'autres de créer votre association. Alors, est-ce que chacun d'entre vous peut expliquer à nos auditeurs quelles sont les différences ? Y a-t-il des différences entre vos deux associations ? Quels sont leurs points de vue, notamment par rapport à la prison, par exemple ?
Bon, ceci dit, là-dessus, il faut bien parler de visée stratégique et non pas de personne, parce que même si effectivement je suis, je partage pas le point de vue de l'OIP, je tiens ici à affirmer mon amitié très importante, en tout cas pour les deux membres lyonnais. Hein, donc ça ne, il n'y a pas de problème affectif et des problèmes d'ego. C'est vraiment des problèmes de réflexion. Et des problèmes, ça nous empêche pas de nous retrouver régulièrement et de marcher ensemble, parce que ce qu'ils font, c'est un peu utile quand même, et que bon, même s'ils vont pas assez loin à mon goût, bah voilà, le guide du prisonnier, c'est quand même pas rien. Pour qu'on soit obligé, et pour que l'OIP soit obligé d'écrire un bouquin comme ça, ça veut bien dire qu'il y a un véritable manque et que les droits des prisonniers ne sont pas respectés. Et en ça, j'ai envie de dire que l'OIP est un argument pour nous, pour dire, vous voyez, le droit n'existe pas.
Lionel ?
Oui, ben la différence principale, effectivement, entre la présentation politique et l'orientation politique de l'assaut d'Alain et celle de l'OIP, on peut résumer simplement, c'est d'un côté l'abolition de la prison, et d'un autre côté ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire une visée dynamique, c'est-à-dire pas qui se fixe pas un objectif à atteindre, qui se fixe un mouvement dans lequel s'inscrire. Bon, après ça, on va dire plus de 20 années d'exercice de travail de l'OIP ont plutôt abouti à un renforcement de l'importance de la prison, puisque depuis les années 90, et enfin c'est avec des variantes, mais enfin la population carcérale a franchement augmenté en France. Donc on peut pas dire que le travail de l'OIP soit une réussite de ce côté-là. Ceci étant, les idées changent et elles évoluent. On entend notamment chez de plus en plus de politiques des choses pas complètement débiles sur la question de la prison et sur la question de la peine plus largement. En revanche, je confirme ce que disait Alain, je crois, tout à l'heure, sur l'appauvrissement de la pensée politique en matière pénale, où on est de moins en moins critique vis-à-vis d'un système qui réprime essentiellement, et ça, l'OIP peut faire sienne cette constatation, on réprime essentiellement des gens qui viennent de couches sociales, économiques défavorisées de la société. Bon, c'est pas franchement une nouvelle qu'on apprend, surtout sur cette antenne, mais c'est quand même une réalité, et c'est une réalité qui finalement est très très peu décrite et rappelée dans le débat public, ce qui vient quand même tout de suite, enfin dès qu'on fait ce constat, on voit bien que dans la question de dont on entend beaucoup parler en ce moment, peut-être qu'on va en parler, de la question de la lutte contre la récidive, on voit bien que tout de suite c'est un biais, parce que au-delà de la question de la récidive, il y a une vraie question sociale de pourquoi est-ce qu'on commet des infractions, d'abord qu'est-ce que c'est la définition d'une infraction, et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui commettent des infractions. Voilà en gros sur la différence, à mon avis.
Très bonne question. Je pense que Alain doit avoir une réponse à la question qui vient d'être posée à Lionel sur qu'est-ce que l'infraction, qu'est-ce que un acte déviant, qu'est-ce que la réponse qui peut être portée à ces questions.
Ah ben, la réponse, il faut la replacer vraiment à sa base, c'est-à-dire que est-ce que la loi dit le bien ? C'est, voilà, la loi, c'est pas quelque chose de naturel, d'inné, qui tomberait du ciel. Bon, au départ, elle est tombée de je ne sais quel dieu, hein, ce qui est déjà lourd. Mais bon, à partir de là, la loi n'est pas une éthique. Elle est un système construit mentalement par des gens qui avaient le pouvoir pour effectivement, soi-disant, le bien des autres. Bon, moi, j'y crois pas, ça. Alors, effectivement, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de tuer, on n'est pas là pour faire l'apologie du crime. Mais la question, c'est que justement, à partir du moment où on est dans un vivre ensemble et que des gens, par leur comportement, s'écartent d'un bon vivre ensemble, il faut se poser la question du pourquoi. Si on se pose pas cette question, on est effectivement dans un système répressif, comme le disait Lionel, et on est confronté immédiatement à une autre question qui est que punir n'a aucun sens. N'a aucun sens. Philosophiquement, ça peut pas se défendre, ça ne se défend que idéologiquement. Et c'est ça qui est embêtant. C'est que aujourd'hui, la répression est telle qu'on ne sait plus que punir. Et c'est tellement ancré dans la tête des gens que, bah oui, mais quand quelqu'un fait pas ce qu'il faut, il faut bien quand même lui apprendre à faire les choses. Mais c'est-à-dire qu'on est en train de dire que ici, il faut dresser les gens, au sens où on dresserait des animaux. Alors d'abord, si un dresseur de lion se comportait comme les humains se comportent envers les autres humains, ils seraient très vite bouffés par leur lion. Et puis ensuite, je crois que la contrainte, la punition, la violence, le châtiment ne sont pas des outils qui peuvent permettre une véritable prise de conscience. Donc à partir du moment où il n'y a pas prise de conscience, on est entraîné dans un cercle infernal et injustifié de la punition, et on veut toujours punir, comme si effectivement on méprisait les hommes et on disait que de toute façon ce ne sont que des rebuts pulsionnels qu'il faut absolument civiliser à la trique.
Carrément.
Bah oui, c'est ça, hein. Je veux dire que l'étonnant de cette idéologie-là, et ils sont finalement nombreux parce que ça se décline dans des tas d'endroits, oublie complètement quand même que l'être humain existe depuis un certain temps, et s'il y a 150 000 ans de vie préhistorique, il n'y a que 5000 ans de civilisation. Donc je veux dire, au niveau de l'équilibre, il faudrait peut-être prendre conscience encore que chacun a en lui sa part de richesse, sa part de lumière, et sa part d'ombre. Donc il faudrait permettre effectivement aux gens de véritablement fonctionner dans l'appréciation de leur part de lumière et de leur part d'ombre. Or ça, c'est fait nulle part. On est dans un fonctionnement que René Girard, anthropologue, dénonce comme étant le mimétisme avec la création du bouc émissaire. Et donc, comme on ne parle pas de nos parts d'ombre, eh bien, on trouve des boucs émissaires pour dégager, pour se déculpabiliser. Et le bouc émissaire, le pauvre, le marginal, hein, ou l'étranger, c'est le bouc émissaire idéal.
Alors, Lionel, une réponse ou une réaction par rapport à...
Non, c'est pas une réponse ni une réaction, c'est plutôt de rappeler ce que c'est que la prison, sans rentrer dans les détails descriptifs qui peut-être prendraient trop de temps. La prison, c'est quand même un lieu de négation. C'est un lieu de négation de la personne, de l'humanité de la personne, je reviendrai, c'est un lieu de négation de l'administré, c'est un lieu de négation du justiciable, c'est un lieu de négation du citoyen, c'est la personne prise dans tous ses attributs sociaux, de l'identité, enfin on peut décliner ça à l'infini, c'est censé, dans les textes, puis ça a été rappelé à plusieurs reprises par des politiques de droite ou de gauche, c'est censé être la privation de la liberté d'aller et venir et rien d'autre. Bon, on sait bien sûr que c'est beaucoup plus que ça, et même si c'était que ça, ça serait déjà beaucoup, puisque le simple fait de se retrouver dans un espace clos extrêmement restreint duquel on peut pas sortir, même s'il est très propre, même si ça sent bon, c'est quand même particulièrement difficile à vivre. Mais à ça se rajoute tout un tas de choses, la difficulté de maintenir des liens avec ses proches, la difficulté de se soigner quand on en a besoin, la difficulté de faire respecter ses droits au quotidien, la difficulté d'accéder ce qu'on a envie de bouffer, etc., etc. Par exemple, un petit détail, ça faisait des années et des années que le café était interdit en prison, on sait pas pourquoi. Puis là, par une simple, c'était censé énerver les détenus, voilà. Par une simple note de l'administration pénitentiaire, maintenant ça y est, c'est autorisé. Donc ça marque bien le côté arbitraire de cette institution.
Peut-être sur ce point, si je peux me permettre, c'est pas si arbitraire que ça, parce que comme le café coûte plus cher, ça permet aussi aux industries qui sont rentrées dans la prison à travers les partenariats privés publics de faire un petit peu plus de bénéfices, parce que les Nescafé Ricoré pourris, ça peut pas coûter cher. Tandis que si on vend du café, on commence à faire de la marge.
Tout ça pour dire que enfin, il y a effectivement cette question de marge, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus en compte, puisqu'il y a de plus en plus de prisons qui sont à gestion mixte, c'est-à-dire privées en partie, par des grands groupes privés qui construisent, qui louent et puis qui assurent la gestion quotidienne. Symboliquement, la prison, c'est quand même toujours, et on voit bien, enfin, il suffit de s'écouter un petit peu, on va dire, avec honnêteté, chacun de nous. La prison, c'est un endroit où on enferme les gens. C'est une sorte de relégation, c'est une sorte de poubelle. C'est-à-dire que la prison, c'est quand même l'endroit où actuellement on envoie les gens. Et on veut plus les voir, on veut plus les entendre, on veut pas savoir ce qui s'y passe, on n'a pas très envie de savoir ce qui s'y passe. C'est un lieu d'exclusion. La prison, c'est la manifestation matérielle de l'exclusion que décide la société vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça aussi, en tout cas c'est l'avis et la façon de faire de l'OIP, qu'il est toujours important de rappeler comment ça se passe à l'intérieur de la prison, puisque cette exclusion, elle se manifeste au quotidien dans la vie du prisonnier. Encore une fois, en termes de... Enfin, je vais pas reprendre la liste, liens familiaux, santé, etc., etc., par toutes les mesures de sécurité interne qui sont extrêmement difficiles à vivre. Voilà, donc cette prison, c'est le lieu de l'exclusion, c'est l'endroit où on met à l'extérieur de soi, et il y a vraiment cette dynamique, et qui est d'ailleurs de plus en plus, c'est une dynamique qui est de plus en plus présente dans le système pénal, puisque les peines s'allongent, et on a tendance de plus en plus à incarcérer des gens, y compris pour des peines qui sont infinies, et il y a des gens, c'est souvent ignoré, des gens qui meurent par dizaines tous les ans de vieillesse à l'intérieur des prisons. Alors certaines sont pas forcément là pour des longues peines, mais il y a des gens qui, après avoir passé des dizaines, plusieurs dizaines d'années, finissent par mourir en prison. Donc on a substitué quand même la peine de mort à une peine perpétuelle réelle, puisque encore une fois c'est une réalité, enfin qui est établie, qui est incontestable. Et donc il y a cette logique se manifeste dans les extrêmes les plus absolus. Donc ça passe par ça, et ça passe aussi par, à l'intérieur même de la prison, par tout un tas de systèmes d'exclusion qui d'ailleurs se multiplient au fur et à mesure de l'histoire pénitentiaire. Je pense au quartier disciplinaire, je pense au quartier d'isolement, où on peut enfermer les prisonniers éventuellement pour l'ensemble de leur détention. Ça peut durer des années, voire des dizaines d'années, là encore. Et plus récemment, la mise en place de régimes différenciés avec des secteurs fermés, donc qui sont en fait où on inflige un régime maison d'arrêt, c'est-à-dire où le détenu n'a pas possibilité de sortir de cellule pendant la journée, alors même qu'il est dans un établissement pour peine où il devrait pouvoir se rendre dans une enceinte délimitée. Voilà. Donc à l'intérieur de la prison, il y a encore ces mécanismes d'exclusion qui existent. Donc on voit bien cette logique qui est vraiment au cœur du fonctionnement de la prison, et au cœur du coup du sens que la société donne à cette institution.
La prison, c'est l'image que j'ai, c'est comme ces poupées gigognes russes. Vous savez, on voit que la première est à l'intérieur de la poupée, il y a une autre poupée, puis encore une autre poupée jusqu'à la toute petite. Ben, la prison, c'est ça. C'est-à-dire que l'institution, le pouvoir politique essaye de nous montrer la poupée à l'extérieur, et nous, on n'arrête pas de parler la toute petite, là, qui est là, au fond de toutes les autres poupées que personne ne veut voir et qui, effectivement, on ne voit pas. Et donc, c'est quand même problématique. parce que la prison, c'est tout sauf la transparence, elle est encore plus muette que l'armée, la prison, c'est la négation totale de l'individu, c'est effectivement l'exploitation maximale à travers les ateliers, je veux dire que...
sur le travail en prison.
Voilà, avec le travail en prison, le bagne n'a pas vraiment disparu, c'est la marque à vie, même si la marque au fer rouge ne se fait plus sur la peau, le casier judiciaire fait cet office-là, les traces ADN fait cet office-là, etc. Alors on va me dire, oui, mais c'est formidable, tu comprends, parce que comme ça, les violeurs, on peut les retrouver, patin couffin. Alors il va falloir répéter et répéter inlassablement que 60% des peines sont des peines de 6 mois ou inférieures à 6 mois, que les cas, alors là évidemment en ce moment vous avez la presse avec Tony Meillon qui font des demi-heures dans les journaux télévisés parce que ça excite la ménagère de 50 ans, puis en même temps c'est comme ça, ça fait peur à tout le monde, donc voilà, sauf que des mecs comme Tony Meillon ou même des mecs comme Marc Dutroux, en France il y en a pas 20. Il n'y en a pas 20, et il y a 68 000 prisonniers. Donc voilà, je veux dire, il faut arrêter de parler des crimes pour faire peur aux gens. Si je, une simple chose, parce que à mon avis, l'abolition des prisons, elle commence par là, par l'application de la loi. En novembre 2009, il y a une loi pénitentiaire qui dit que toutes les peines de 2 ans ou inférieures à 2 ans peuvent être aménagées, en tout cas sont aménageables. Eh bien, il faut que les auditeurs entendent ça et le répètent sans arrêt autour d'eux, que si cette loi était appliquée au sens plein, c'est-à-dire que effectivement tous les gens qui sont condamnés à 2 ans ou à moins de 2 ans soient dans une peine aménagée, eh bien on viderait d'un seul coup 80% des prisons. C'est quand même énorme. Donc quand on nous donne l'argument des grands crimes et des ci et des là et des viols et de la pédophilie, je veux dire que c'est peanuts par rapport effectivement au fonctionnement de la société. La France est un des pays où on tue le moins. Et c'est certainement pas à cause de la prison. On a enlevé la peine de mort, on tue pas moins, on tue pas plus. Voilà. Sauf que le fait d'avoir aboli la peine de mort, ça nous a amené 10 000 prisonniers d'un coup de plus. Et les peines se sont rallongées, et maintenant on est dans la surpopulation, etc., etc. Donc on voit bien, on ne sait pas, ça n'a jamais existé. Est-ce qu'une société sans flics et sans juges serait plus criminogène? Et est-ce que vraiment ça serait un truc à la Mad Max? On ne sait pas, ça n'a jamais existé. Pourquoi on imagine que les gens ont besoin d'être tenus en laisse et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un là pour les surveiller, pour leur dire ce qu'il faut faire, comme si c'était des gros cons qui ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire? Je crois que là, c'est vraiment une question philosophique à laquelle il faut réfléchir, et réfléchir de la place de l'homme pour l'homme et la place dans la nature. On nous parle de civilisation, mais nom de Dieu, on est en train de bousiller les mers, on est en train de déforester, on est en train de faire sauter la planète, et on dit qu'on est civilisé. On se fout de la gueule de qui ?
Alors, pour vous, quelle serait la bonne réponse, la réponse en fait de la société finalement à la transgression sociale ? Quelle serait la réponse ?
Mais la réponse, elle va être en fonction de ce qu'on analyse de la transgression sociale. Aujourd'hui, on est effectivement dans une société du spectacle où il faut aller tout vite, tout vite, tout vite. C'est-à-dire que il faut pas réfléchir. Il faut être pragmatique, il faut être fonctionnel, il faut être expert, il faut répondre immédiatement. Alors évidemment, on veut une réponse toute faite. Non, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut savoir effectivement prendre le temps. Si il y a une transgression sociale, cette transgression sociale, elle vient d'où ? Elle vient de qui ? Elle est générée comment ? Alors évidemment, il y a un connard qui dit à la télé que s'il y a 40 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Il y a des tas de gens qui l'entendent, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qu'on appelle délinquants, ils sont pas contre le système capitaliste, ils sont contre les moyens. C'est-à-dire qu'ils veulent pas se faire chier à bosser pour avoir du pognon. Ça, c'est la différence. Mais ils sont pas contre le système. Bon, on nous parle effectivement des viols, mais pour vendre un grain de riz, on fout une nana à poil sur une affiche, et on est en train de revendiquer la jouissance pour tous. On se fout de la gueule de qui ? C'est-à-dire que voilà, c'est messages contradictoires. Il faut véritablement réfléchir. La prison, si effectivement on l'abolit, elle peut pas s'abolir toute seule, parce que là aussi, on n'a plus de penseurs, on n'a plus de gens qui sont capables de raisonner en transversal et en global. On n'a que des experts qui s'auto-intitulent experts, ils sont experts de rien du tout. Mais bon, alors vous avez les psychologues, là, cette escroquerie monstrueuse, vous avez les psychiatres, alors vous avez après le truc le pire, hein, les criminologues. Et les mecs, ils pensent que ce sont des scientifiques, mais c'est rien du tout, ils y connaissent que dalle. Moi, j'ai appris dans ma vie, Et j'ai eu un enseignement un jour par un monsieur qui s'appelle Hubert Reeves. J'ai eu le bonheur de le rencontrer, j'ai bossé 3 jours avec lui. Et il m'a dit, tu sais Alain, hein, l'univers, moi je connais que 2%. Et tout de suite, j'ai compris qu'on en ignorait 98%. Eh bien, dans la société, on en est à ce niveau-là. On ignore beaucoup de choses par rapport à ce qu'on sait. Mais comme on veut être dans la répétition du passé et conserver ce qui existe parce qu'on a tellement peur du changement, et dès que voilà, on fait de la répétition. On n'est pas dans une société civilisée, on est dans une société bégayante.
Une réaction?
Ouais, deux. La première, c'est qu'il existe déjà plein d'alternatives à la peine, d'abord, et à la prison ensuite. Il y a tout un tas de mesures qui existent déjà actuellement, qui sont plus ou moins appliquées, d'alternatives aux poursuites, de médiation, à différents stades. Alors, ça dépend de la gravité de ce qui est en cause. Il y a aussi tout un tas d'infractions, probablement, qui pourraient être dépénalisées. Hein. C'est le cas de... On parle beaucoup de la question de l'usage des stupes. Il y a aussi beaucoup de gens qui revendiquent la dépénalisation du délit d'outrage, qui est quand même une espèce d'aberration qui, en plus, conduit à condamner des tas de gens sur la simple base de compte-rendu policier. On connaît bien ça dans le domaine pénitentiaire, puisqu'il y a aussi beaucoup de personnels pénitentiaires qui se plaignent comme ça d'outrage, de violence commise par des personnels. Et souvent, c'est très peu prouvé. Et pour autant, les prisonniers sont régulièrement sanctionnés, soit en interne, soit par le juge pénal. Donc, ces alternatives-là, elles existent. La deuxième chose à répondre, c'est que il n'est pas question ici de parler des alternatives, il est question de poser que la prison, en tout cas la prison en tant qu'elle s'applique comme ça de manière démesurée, irréfléchie à n'importe quelle situation, à n'importe quelle personne, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, la prison c'est la solution qu'on adopte par défaut pour un juge aujourd'hui, que ça soit en matière de détention provisoire, que ça soit en matière de condamnation, que ça soit en matière d'aménagement de peine, c'est toujours plus facile de décider d'envoyer quelqu'un en taule. Il a aucune responsabilité par rapport à ça que de mettre en place un bracelet, que mettre en place un placement, que mettre en place un accompagnement. Donc c'est, encore une fois, la logique de la poubelle. Je sais pas quoi faire, tu m'énerves, je te vire, tu vas au trou, et puis on n'en parle plus, c'est bien fait comme ça. La question, c'est de dire que cette solution et cette façon de penser et de procéder, c'est une solution qui est intolérable. On aura tout le temps, une fois qu'on aura admis ça et qu'on aura acquis ça, de réfléchir, comme disait Alain, de commencer à penser d'autres solutions, de développer les solutions qui existent, mais le postulat et le point de base, c'est de dire que nous, enfin moi je suis pas un ancien prisonnier, je suis pas un avocat, je suis pas un juge, je suis un citoyen extérieur, mon point de vue et ma pensée de citoyen extérieur, c'est que je refuse le droit à la justice pénale en mon nom d'envoyer des gens au trou un peu n'importe comment comme ça. Je pense et je considère que ça c'est quelque chose d'intolérable et qui doit y être mis fin. On trouvera des solutions ensuite dans un deuxième temps.
D'accord. Bon, le débat est bien passionnant. On va faire une petite pause musicale et on reprend tout de suite après.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Faut pas pleurer. Petit, rester là. T'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté, pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité, pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller. Couché là, et puis ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Petit, faut pas pleurer. Petit, faut pas trembler. On se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil.
Nous reprenons notre émission sur la prison. Alors, Lionel, est-ce que tu peux nous faire un petit constat sur ce qu'est la prison en France aujourd'hui?
Je voulais plutôt donner une ou deux illustrations, en fait, puisqu'on parlait de l'aspect arbitraire, de l'aspect poubelle, on va dire, de la prison. Je prends simplement deux exemples pour faire vite. On a eu lieu il y a pas longtemps de s'occuper de travailler avec un type qui passait en procès à la cour d'assises du Rhône par rapport à l'évasion de la prison de Moulins. Donc c'était en 2007, ce type est donc comparaissait dans cette cour d'assises pour complicité. Il était poursuivi pour avoir permis aux deux évadés d'entrer armes explosives. Et donc c'est un mec qui est incarcéré pour tout un tas de choses différentes, peu importe, mais il a connu plein d'établissements. Ça fait assez longtemps qu'il est en prison et il n'était pas à l'isolement. Il était dans une prison, je crois, à Rouen, en détention classique. Il arrive à Corba, donc à côté de Lyon, la prison de la nouvelle maison d'arrêt de Lyon. Et là, aussitôt qu'il arrive, on lui dit tu vas aller à l'isolement. Voilà, c'est comme ça. Donc il proteste, il gueule. Et en fait, il reçoit une procédure dans laquelle on lui explique qu'il est placé à l'isolement parce que les autres accusés du procès, eux, sont à l'isolement. Et que pour des raisons de surpopulation de l'établissement, c'est pas possible de le surveiller comme il faut. En détention normale, donc boum, isolement. Bon, isolement, faut bien voir ce que c'est. En plus, à Corba, même un membre de l'équipe de direction dit à Corba, l'isolement, c'est l'isolement dans l'isolement, parce que le bâtiment est complètement éloigné du reste de la détention. On n'entend rien, on n'entend même pas les rumeurs, les bruits de ce qui se passe dans les bâtiments de détention classiques. Et c'est une cellule, c'est une cour de promenade dans laquelle on voit quasiment pas le ciel, parce qu'il y a un tel réseau de barreaux et de grillages qu'on voit rien. Enfin, et ce gars a passé 15 jours avant son procès, plus toute la durée de son procès, à devoir préparer son procès, consulter son dossier, etc. après un transfert, d'abord elle a traversé toute la France, et en isolement, parce que la prison pouvait pas assurer sa surveillance à cause de la surpopulation. C'est-à-dire que non seulement les établissements pénitentiaires français continuent d'imposer l'encellulement collectif à la plupart des détenus, même ceux qui le souhaitent pas, ce qui est la grande partie, la grande majorité d'entre eux, et en plus, pour ce motif-là, on envoie des gens dans des régimes plus sécurisés. Bon, la morale de l'histoire, c'est que le type a fait un recours au tribunal qui a été rejeté comme quasiment tout le temps, parce qu'il n'y avait pas, selon la jurisprudence, il n'y avait pas d'urgence à ce que le juge intervienne. Donc le mec a comparu en ayant fait son isolement pour ces raisons-là, qui sont des raisons avérées, incontestées. Et c'est probable que dans plusieurs mois ou plusieurs années, le tribunal administratif qui statuera au fond dira que c'était illégal. Mais bon, ça n'empêche pas que ça sera bien trop tard. Et le type, depuis, il est retourné dans sa prison d'origine, il n'est plus à l'isolement, et fin de l'histoire. Le deuxième exemple, c'est la question des fouilles corporelles, puisque Alain parlait de la loi pénitentiaire, donc sur le volet pénal, qui prévoit que toutes les peines de 2 ans ou moins doivent être aménagées. La loi pénitentiaire, comme son nom l'indique, elle a prévu tout un tas de dispositions. Alors c'est toujours pareil en France, spécialement dans le domaine des prisons, quand il y a une loi, c'est un grand moment de proclamation. On proclame tout un tas de choses, on proclame le droit à la dignité du détenu, le droit aux liens familiaux, etc., etc. Et notamment, on proclame ça figure noir sur blanc dans cette loi pénitentiaire, donc de fin 2009, que les fouilles systématiques des détenus ne peuvent plus avoir lieu, ça devient interdit. Les fouilles systématiques, c'est quoi? C'est notamment, ça peut être à d'autres moments, mais notamment après les parloirs. Le prisonnier, il a son parloir avec, mettons, ses proches, peu importe. À la fin du parloir, il passe en cabine de fouille, et là, il est fouillé complètement nu. Il doit se foutre à poil, il doit se baisser, il doit montrer tout ce qu'il y a de plus intime, et ensuite il se rhabille et il part. Donc c'est une pratique évidemment extrêmement humiliante, et donc la loi dit maintenant c'est possible de faire éventuellement des fouilles corporelles, mais il faut que ça soit justifié par des éléments précis. On peut pas imposer à tout le monde des fouilles corporelles comme ça, c'est complètement attentatoire à la dignité. Bon, la loi existe depuis donc fin 2009, elle s'applique, hein, elle était censée s'appliquer tout de suite, et on sait aujourd'hui, depuis cette période, donc ça fait maintenant plus de 2 ans, que cette loi n'est pas appliquée, trois ans, ouais, et bientôt 4, que cette loi n'est pas appliquée, et que dans toutes les prisons de France, les détenus continuent d'être fouillés de façon systématique à l'issue des parloirs. Et même, ça va plus loin, on a eu le cas tout récemment, là, l'OIP a fait un communiqué avant-hier là-dessus, sur un type à Vars, à côté de Grenoble, qui refuse, en fait, il refuse même pas la fouille, il refuse simplement, le surveillant lui demande de non seulement de baisser son calbute, mais en plus de lui tendre son caleçon, enfin d'enlever complètement son caleçon, alors que d'habitude on lui demande pas. Donc il proteste, il dit non. À ce moment-là, plein de personnel arrive pour le forcer à faire la fouille corporelle, c'est toujours ce qui se passe dans ces cas-là, donc c'est encore plus humiliant que d'habitude. Et le mec se prend, au final, 10 jours de quartier disciplinaire, enfin 6 jours ferme et 4 avec sursis, pour avoir refusé de se soumettre à une mesure qui est illégale. Et là, de la même manière, on sait que s'il avait saisi le tribunal pour sortir du mitard, parce que c'est manifestement complètement illégal, attentatoire à sa dignité, tout ce qu'on veut, de la même manière, le tribunal aurait refusé pour toujours les mêmes raisons d'urgence. Donc on voit bien avec ces deux exemples-là l'écart qu'il y a entre la proclamation qui est faite dans le droit, officiellement, bien sûr, d'ailleurs, la pénitentiaire n'a pas manqué de dire que désormais, les fouilles corporelles en France n'ont plus lieu, comme si il suffisait que quelque chose soit écrit dans la loi pour que ça existe en vrai, qu'il y a un écart fort entre la loi et son respect par l'administration pénitentiaire. Et ça va même plus loin quand on arrive à contraindre l'administration pénitentiaire à se conformer à la loi. Par exemple, on voit maintenant, il y a des recours possibles pour les sanctions de quartier disciplinaire. L'avocat, depuis 2000, peut rentrer pour défendre le prisonnier. L'administration pénitentiaire, elle se débrouille pour contourner ces dispositifs et pour mettre en place d'autres mesures dans lesquelles elle se passe de la présence de l'avocat, pour lesquelles il n'y a pas de recours. Voilà. Donc, on est toujours dans une espèce de fuite, comme ça, de la prison. au-delà de la pénitentiaire, c'est bien sûr cette institution qui pilote, mais enfin c'est le fonctionnement de l'institution au-delà de ça, elle court devant la loi comme ça pour lui échapper sans arrêt, et elle réussit, puisqu'en fait on ne cesse de proclamer des droits pour les prisonniers, mais globalement on peut quand même faire le constat que ces droits s'appliquent très 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 peu de façon concrète pour ces prisonniers.
Mais d'ailleurs tu parlais de Corbal tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire un petit point justement sur ces nouvelles prisons où le taux de suicide est quand même très très important et qui sont censés justement apporter plus de dignité aux détenus, etc. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est pas du tout le cas.
Bon, on va faire court parce que moi j'étais à Corba et bon, ça a été dit, redit que les nouvelles prisons sont bien plus humaines que Perrache. J'ai moi-même fait une pleine page de Libération en disant qu'on regrettait nos rats et nos cafards et notre décrépitude par rapport à ce modernisme inhumain. Bon, donc on sait très bien que de toute façon, les nouvelles prisons, elles sont construites sur un fond du sécuritaire, avec une rationalisation, des matons derrière la vitre teintée qu'on voit même pas, etc., etc. Bon, voilà, c'est-à-dire que de toute façon, on est dans l'escalade du pire. Mais par rapport à ce que disait Lionel, voilà, c'est un constat. Alors, est-ce qu'on continue à faire ce constat en disant « Ouais, la prison, c'est dégueulasse », ou est-ce qu'on essaye de comprendre ? Moi, je crois qu'il faut essayer de comprendre. Et faut effectivement... Bah voilà, lire, chercher, parce que moi j'ai découvert quelque chose. Alors d'abord, je dirais sur la façon dont la pénitentiaire évite la loi, c'est normal. C'est normal, de tout temps à jamais, les bourreaux ont toujours été privilégiés parce qu'ils faisaient le sale boulot que les autres ne voulaient pas faire, et comme ils faisaient ce sale boulot, bah, ils avaient droit à des privilèges que les autres n'avaient pas. Donc, on a effectivement les bureaucrates qui protègent les bourreaucrates. Donc, ça marche très très bien. Et puis, il faut se rappeler aussi quand même que le premier geste de la Révolution française de 1789, c'est de faire tomber une prison. C'est pas n'importe quoi, ils prennent la Bastille. Hein. Avant d'aller au Louvre, avant d'aller à Versailles, ils liquident la prison. Donc moi, je crois que là, il faut s'en servir en termes d'exemple. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai regardé de près quand même un peu l'histoire des prisons, qui, au passage, pour ceux que ça intéresse au niveau sociologique et historique, noteront que la prison telle qu'elle existe aujourd'hui est sortie avec le capitalisme, hein, c'est-à-dire que c'est à peine 200 ans. Il se trouve que effectivement, il y a eu des grands mouvements dans les années 70 et dans les années 80. Il y a eu, je parlais de Michel Foucault au tout début d'émission, il y a eu effectivement le GIP qui a été à l'initiative de Michel Foucault, qui a fait une analyse très pertinente justement de la structure architecturale des prisons, mais pas que, hein, parce que tout le monde parle de son analyse sur les bâtiments panoptiques, mais bon, il a quand même dit beaucoup, beaucoup d'autres choses, et surveiller et punir ne parle pas que de l'architecture. Bon, et on s'est aperçu ensuite qu'il y a eu les CAP, que les prisonniers ont essayé de se mettre en place, un système d'association pour se défendre, et que, ensuite, évidemment, ça aboutit à quoi ? Après la phrase de Giscard d'Estaing disant que, effectivement, la privation de liberté, c'était simplement la privation de liberté et rien d'autre, eh bien, on a Poniatowski, Pierre Fitte et compagnie qui nous sortent les QSR et les QHS. Pour ceux qui oublient ce que c'est que les QHS, je les renvoie au bouquin de mon copain Roger Knobelpiece. Bon, et puis, en 80, il y a à nouveau... il y a à nouveau des révoltes et des mutineries dans les prisons. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? C'est que les revendications d'à ce moment-là, des années 70, puis des années 80, bah quelque chose près, c'est les mêmes revendications qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas bougé d'un iota. Et on avait cet éminent révolutionnaire qui s'appelle Auguste Blanqui, qui disait qu'en prison, et lui connaissait aussi, que de toute façon, l'ancien était toujours nouveau et le nouveau était toujours ancien. Voilà, donc on voit bien que là, il y a un processus, et si des gens peuvent se permettre, dans un lieu qui est censé apprendre aux gens à respecter la loi, s'ils peuvent se permettre à longueur de journée de ne pas respecter la loi... Eh bien, c'est que il y a bien une raison. Cette prison, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Est-ce qu'il y a moins de récidives ? Est-ce que il y a moins de violence ? Non. Exactement comme avec la peine de mort, il n'y avait pas plus ou moins de crimes. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, si ça marche pas, pourquoi on met toujours plus de trucs qui marchent pas à des trucs qui marchent pas en pensant que ça va aller mieux ? Bon, ça, c'est une grande question quand même. Bon, d'autre part, quand on regarde à quoi ça sert la prison, bah, quand vous avez un État qui a raté sur le plan social, qui a raté sur le plan économique, qui a raté sur le plan humain, qui a raté sur le plan sociétal. Qu'est-ce qui lui reste pour justifier son existence de politicien, à part le sécuritaire, avec la manipulation qui consiste à faire peur aux gens, qui consiste à les menacer, au point qu'on en arrive aujourd'hui où on en est à la criminalisation des luttes sociales. J'ai, il y a 2 ans, rencontré Xavier Mathieu, le leader des Conti au plateau des Glières. Voilà, c'est un homme, quoi. Il a cassé un ordinateur à la préfecture, on lui a demandé son ADN, il a refusé, il est en procédure judiciaire, comme si c'était un grand criminel. Des mecs qui ont mis des calicots CRSSS, ils ont pris des prisons avec sursis, avec des amendes. Et on a vu, alors on se dit, ah ouais, mais avec la gauche, ça va changer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Hollande qui a reculé comme un lâche devant l'amnistie des travailleurs en lutte. Bon, et tout ça, ça a du sens. C'est pas des choses qui sont éloignées les unes des autres. Alors, là-bas, il y aurait les travailleurs, et puis là, il y aurait la racaille. Non, non, tout ça, c'est un ensemble de sociétés qui fonctionnent et qu'il faut effectivement regarder. Mais aujourd'hui, on est dans un monde d'experts. Alors, l'éducation nationale dit, elle essaye de régler son éducation nationale. Elle veut pas prendre en compte la considération que les élèves en ZEP, ils sortent des ghettos où ils sont déjà exclus, et que les adolescents, ils sont contrôlés 10 000 fois parce qu'ils s'appellent Ben ou ils s'appellent Mourab, et que de toute façon, ils ont une peau bronzée, et que de toute façon, ça restera des jeunes issus de l'immigration, même s'ils sont parfaitement français. Voilà. Pourquoi dans les prisons, il y a 98% de pauvres, d'étrangers, de marginaux, de gens déjà fragilisés? C'est pas par hasard. On est bien là, d'abord, parce que ces gens qui sont pauvres, qui va les défendre? Qui sait qui va défendre les pauvres? Qui sait qui va défendre la racaille? Effectivement, on vous dit, ah oui, mais bon, et s'il viole ta fille, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, on est dans un truc, on est dans un espèce de terrorisme. Je veux dire qu'il suffit d'avoir regardé quand même ce film remarquable, ce documentaire remarquable qui s'appelle Les Chiens de Garde, qui nous montre bien comment la presse est assujettie, comment ça fonctionne. Vous avez dernièrement Le Figaro qui dit, ah ben voilà, hein, de toute façon, c'est parce que Taubira, elle veut plus de souplesse, qu'il y a plus de délinquants et qu'il y a plus de prisonniers, puisque ça continue à augmenter. Le mec, il se pose même pas la question si c'est les juges qui condamnent le plus. Alors on a un problème politique, on a un ministre de la justice qui est censé être le patron des procureurs, qui leur fait une circulaire pénale en septembre en disant, privilégiez toutes les peines alternatives, parce que je reprends une toute petite parenthèse, Lionel parlait des alternatives à la peine, non, il parlait des peines alternatives. Nous, à l'abolition des prisons, on parle de l'alternative à la peine, ce qui n'est pas du tout la même chose du point de vue sémantique. Bon, je reviens sur Taubira, elle est le chef des procureurs, elle leur fait une circulaire en disant, prenez effectivement des peines alternatives. Les mecs, ils s'en tapent, ils l'écoutent même pas, ils continuent à incarcérer, et ils incarcèrent de plus en plus, y compris à faire exécuter des peines d'un mois ou d'un mois et demi de prison. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des groupuscules issus du Front National qui s'appellent l'IPJ, l'Institut pour la Justice, qui veut aucun aménagement, qui veut les peines à fond, qui veut du massacre, etc. Même les victimes, elles sont pas d'accord avec ça. Alors, je veux dire qu'il y a bien quelque chose, il y a bien une signification. C'est pas simplement monsieur, madame, tout le monde qui a peur de se faire piquer sa bagnole, quoi.
Eh bien, justement, en parlant de victimes, on peut peut-être en parler, et parler plus amplement de la relation auteur-victime et justement de votre projet particulier au sein de l'association Renaître.
Alors, j'ai eu le bonheur de participer l'année dernière à un congrès qui a été organisé par INAVEM. INAVEM est une association qui regroupe des associations de victimes et qui travaille dans la médiation. Et leur titre du congrès, c'était « Auteur-victime, la rencontre possible ». Donc j'y suis allé et on m'a largement donné la parole et j'étais très content d'y participer. J'ai rencontré des victimes, c'est-à-dire que je suis pas hein, l'ancien taulard, l'ancienne racaille, qu'on a strictement rien à foutre, je m'en suis bien tiré, puis voilà, etc. C'est pas du tout ma position. Donc j'ai rencontré des victimes, j'ai discuté avec ces personnes-là, qui disent quoi? Qui disent que de toute façon, que le mec il prenne des années de prison et s'en foutent. C'est pas le problème. Eux, leur question, c'est qu'ils recommencent pas. Bon, les indemnités, elles s'en foutent. Elles disent ça, c'est l'argent de mon malheur. C'est de l'argent qui pue. J'en veux pas. Par contre, ce que je veux savoir, c'est effectivement pourquoi moi et pour qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, quelle était la motivation de l'auteur. On a des exemples, alors on a des exemples en Belgique, il y a mon copain Jean-Marc Mailly qui essaye effectivement de travailler avec une association, mais là aussi, moi, c'est très bien ce qu'ils font, hein. Jean-Marc est un mec formidable, je vous conseille tous d'aller voir s'il passe à Avignon l'homme debout, parce que c'est absolument remarquable, mais comment dirais-je, voilà, c'est une médiation, mais elle est à côté de la loi, c'est-à-dire elle ne rentre pas dans le processus judiciaire. Tout ça parce qu'il y a un mec qui a dit bah oui, mais si on fait rentrer ça dans le processus judiciaire, les gars, ils vont tous se ruer là-dedans pour avoir moins de prison. C'est-à-dire que déjà, il s'est rien passé, hein, mais on a déjà l'idée que de toute façon, ils vont chercher à faire des magouilles, ils vont chercher à s'en tirer et qu'ils vont tricher avec le système, puisque de toute façon, voleur un jour, voleur toujours. Bon. Il y a des choses qui se passent au Canada, mais bon, là, ça m'ennuie plus parce que c'est sous la main du confessionnel. Donc, en plus, la démarche, ça s'appelle une demande de pardon, donc c'est très lourd, c'est très tout ça. Voilà. Mais, simplement, vous avez un mec qui s'appelle Boris Cyrulnik, hein, qui a écrit beaucoup de livres sur la résilience, et son dernier bouquin, et quand il dit « Cours, la vie t'appelle », voilà, il montre bien le processus qui fait que à travers des rencontres, à travers de la réflexion, à travers de l'accompagnement, eh bien, à un moment donné, on peut faire fructifier le malheur qu'on a traversé. Et le malheur, quand vous regardez ça, c'est très très étonnant de voir combien il y a des points communs entre la victime et les auteurs. D'abord, au tribunal, ils sont juste là pour faire joli. Ils sont là pour justifier la mise en scène du théâtre. La victime, elle, il faut qu'elle s'exprime dans les questions qu'on lui pose. Elle n'a pas le droit d'interpeller directement le prévenu en disant « Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce qui t'a eu dans la tête ?» Bon, de toute façon, le prévenu, lui, il est là juste pour te défendre parce qu'on lui en met tellement plein la tronche qu'il trouve les arguments pour essayer d'en prendre le moins possible, effectivement, mais parce qu'il est acculé. Voilà, je le sais très bien, donc je l'ai vécu, je sais comment ça se passe. Et il n'y a pas d'espace de rencontre. Vous avez une nana qui s'appelle Latifa Benari, qui travaille sur l'Ange Bleu. Elle travaille avec les pédophiles et les victimes des pédophiles. C'est-à-dire qu'elle fait rencontrer les gens. Elle fait rencontrer les gens et on s'aperçoit que ça marche mieux. Et vous avez ma copine, hein, qui fut un temps d'ailleurs à l'OIP, Brigitte Sifaoui, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme qui a tué mon frère. Elle a fait toute seule la démarche pour aller rencontrer l'assassin de son frère. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je croyais voir un monstre. J'ai vu un homme. Voilà. Et à partir du moment où on se dépollue la tête d'un certain nombre de choses et qu'on n'est pas simplement uniquement pris dans l'émotivité, mais qu'on fait fructifier l'émotion et que d'un seul coup, cette émotion-là, cette douleur-là, cette épreuve-là nous amène à être davantage humain, alors tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. On a un autre point commun. J'ai discuté avec une jeune fille qui a été violée à 11 ans. C'est une gamine. Et là, les médias, ils peuvent pas dire que c'est parce qu'elle avait une robe courte et machin. Elle était en train de tranquillement jouer sur le trottoir. Il y a un mec qui la ramasse, il la viole, il la laisse presque pour morte. Bon, on retrouve son violeur 6 ans après avec un contrôle ADN. Bon, et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, moi, j'ai connu la haine. Et à partir du moment où je refuse pas la haine, mais que cette haine, elle sert de moteur à une réflexion, et bien maintenant, j'ai développé ma sensibilité. J'ai développé ma capacité d'écouter les autres. Voilà, c'est, je veux dire aux gens, alors je suis pas en train de justifier quoi que ce soit, mais faut arrêter de faire croire aux gens que vivre, c'est sans risque, qu'il va rien nous arriver, qu'on va être assuré de partout, et dès que la voiture brûle, on va être remboursé cash sur le prix de la valeur, etc., etc. C'est pas vrai, ça existe pas. Ça, c'est un fantasme d'humain qui veut faire croire qu'il y aurait une société où rien ne changerait, où il ne se passerait rien, où il y aurait aucun danger, et il y aurait que de la joie, et que tout le monde s'aimerait bien, et qu'on serait des bisounours, et en avant. Ça, c'est pas vrai, c'est des conneries, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Il faut qu'effectivement, on arrête de manipuler les victimes, parce que les victimes, à quoi elles servent au tribunal? Elles servent à justifier la dureté de la peine. C'est tout! C'est tout! Et puis, une fois qu'on lui a donné son pognon d'indemnité qui est versé par un fonds de garantie, qui ensuite va faire chier le détenu pour qu'il rembourse toute sa vie, eh bien, après, on s'en fout, la victime, elle n'existe plus. Et vous avez ces marches blanches où les gens, ils viennent là. C'est-à-dire que vous avez eu, quand même, du point de vue de la comparaison, même si comparaison n'est pas raison, on a eu les Conti, on a eu les Molex, on a eu les Lebagy, on a les Mittal. Toutes ces choses, où vraiment, là, c'est complètement dingue. Les gens, ils descendent pas dans la rue. Et d'un seul coup, pour un crime, les gens, ils descendent marche blanche et en avant. Mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire que, est-ce qu'ils sont là en train de faire passer leur culpabilité en défilant dans des marche blanche, parce que avant ils n'ont rien fait pour que la société puisse effectivement réfléchir pour un mieux vivre ensemble. Ça, tout ça, ça m'emmerde, quoi. Et je veux dire que c'est des choses, il faut vraiment réfléchir à ça, et pas, effectivement, pas de manière émotive, mais sans concession. Sans concession.
Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire en disant qu'une victime a rencontré l'auteur du meurtre de son père et qui dit
de son frère
j'ai vu un homme, je croyais voir un monstre. Et ça me permet de rebondir en fait sur la prochaine campagne de l'OIP qui s'appelle Ils sont nous. Et est-ce que Lionel, tu peux un peu nous en parler par rapport justement à l'image du détenu et à l'image finalement des personnes qu'on met en prison et qui seraient censées toutes être des monstres.
Ouais, juste avant ça, je voudrais juste prendre 30 secondes pour dire qu'effectivement, pour prolonger ce que disait Alain, en pointant du doigt le fait qu'en France spécialement, c'est pas le seul endroit, mais vraiment spécialement en France, les victimes ont été de plus en plus mises au devant de la scène pour justifier la peine. Or, à la base, la peine, et ça Foucault notamment l'écrit, plein d'autres à sa suite, la peine c'est avant tout la manifestation de la puissance, et tu le disais tout à l'heure aussi, surtout quand l'État se sent faible en matière économique, sociale, etc., toute sa puissance d'État, d'organes se manifeste dans la punition. Et à la base, c'est le procureur qui demande la peine, c'est la société, soi-disant, qui demande la peine, c'est l'État, en tout cas, c'est le représentant de l'État. Et de plus en plus, on a fait monter la victime en prétendant que la victime demandait de la peine, etc. Et on voit même, et c'est malheureusement très triste, des avocats de partie civile de plus en plus complètement... prendre à partie l'accusé, enfin, et monter les uns contre les autres, alors que bien évidemment ça sert à personne de créer des espèces de tensions et de réclamer des peines de prison à n'en plus finir. Ils sont nous, c'est une campagne de l'OIP, pour faire très rapide, qui vise à faire des portraits en fait des parcours de vie de personnes qui sont passées par la prison pour décrire c'est quoi le parcours de quelqu'un qui est rentré en prison, qu'est-ce qui dans sa vie l'a amené là, comment il en est sorti, comment ça s'est passé en prison. La logique fondamentale qui se cache derrière tout ça, c'est de rappeler à la société qu'effectivement le prisonnier c'est quelqu'un comme nous, parce qu'on a souvent tendance, enfin on l'a déjà suffisamment dit, à exclure, à faire comme si notre propre part d'ombre, on pouvait l'enfermer à travers les gens qu'on enferme, qui sont évidemment jamais nous-mêmes. Et c'est aussi, et à mon avis c'est pas le moins important, de rappeler au prisonnier lui-même que effectivement c'est un homme et que en tant que tel il a l'ensemble de ses droits et il a droit à l'ensemble de la reconnaissance de son humanité par l'ensemble de la société. Et je pense que c'est peut-être une des victoires de l'OIP et des mouvements divers et variés de ces dernières années que d'avoir on le voit bien nous dans les courriers, dans les échanges qu'on a avec des prisonniers. Et Alain n'est pas le moindre exemple. On a de plus en plus de gens qui sont moins dans une posture de victime, mais qui disent je reste une personne. Je n'accepte pas qu'on me fasse des fouilles à corps. Je n'accepte pas ceci. Je n'accepte pas cela. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on se rend pas compte quand on ne connaît pas à quel point la prison c'est une institution qui tend à faire se résigner tout le monde et qui tend à faire en sorte que tout le monde s'habitue à quelque chose de totalement intolérable. Alors les personnels s'habituent, les intervenants s'habituent, mais il faut bien voir que les prisonniers eux-mêmes arrivent à s'habituer à leur sort. Et c'est vachement important de lutter contre ça parce que c'est aussi depuis l'intérieur que doivent s'élever les voix pour critiquer cette prison et pour la remettre en cause dans sa prétendue légitimité, en tout cas en ce qu'elle est aussi présente aujourd'hui dans notre société.
Alors malheureusement, notre émission arrive à sa fin. Il nous reste tout juste une minute. Je vous laisse juste conclure très très rapidement si vous avez quelques mots à rajouter et peut-être donner les coordonnées de vos blogs ou sites internet respectifs pour que nos auditeurs puissent utilement se renseigner s'ils le désirent.
Bah pour Renaître, on a un site sur Wifeo, donc c'est Renaître Wifeo, on le trouve dans les moteurs de recherche, et puis pour ceux qui sont un peu plus dynamiques, Renaître a une page Facebook, donc voilà, il suffit d'aller la voir. Et en conclure, comme je suis conteur, il y a cette histoire qui avait été écrite par un pasteur et qui disait que effectivement, au départ, on avait arrêté les communistes, on avait arrêté les juifs, et puis il disait, c'est pas moi, je m'en occupe pas, c'est pas moi, je m'en occupe pas. Et puis ça se conclut en disant, bah quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre.
Lionel ?
Non, j'ai rien à rajouter à cette histoire et à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Sinon que la lutte et le combat doit notamment passer par l'intérieur. Le site de l'OIP, c'est www.oip.org.
Bon, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission dont je ne connais pas encore le thème. On verra d'ici là et vous souhaite une bonne soirée et laisse la place aux informations de Radio Canu. Bonne soirée.
Here's the promise.